Vincent Favier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général d'Ecoslop. On va parler avec vous de votre actualité et puis des perspectives. Vous rencontrez des investisseurs donc au Palais Brongniart. Comment s'est passé, donc on a la publication des résultats semestriels. Comment se passe cette année 2015 pour vous?
Alors nous, 2015, c'est une année charnière puisque c'est la première année où on opère de façon continue notre unité industrielle à Sines au Portugal qu'on a ouvert. C'est un prototype industriel à l'échelle grandeur nature qui est la première unité capable de recycler des déchets d'hydrocarbures de bateaux en carburant maritime. Donc entre le début de l'année et la fin de l'année, il y a de très grands changements. Notre unité est maintenant opérationnelle, on commence à vendre le carburant. On a finalisé l'investissement sur cette unité, on a formé le personnel. Et donc on a lancé cette première usine et on travaille sur de nouveaux projets pour les années à venir.
Justement, ça a coûté peut-être un peu plus que prévu, mais c'était logique, on a eu du fait que c'était votre premier projet industriel, on va dire, installé.
Exactement, c'est un prototype, donc nulle part dans le monde une unité de ce type-là n'existe. Donc forcément, comme tout prototype, il a coûté un peu plus cher que le deuxième ou que le troisième. Il y a une courbe d'expérience à acquérir. On a fait du stop and go lors de la construction. On a pris des options techniques qui ont été modifiées ensuite. Voilà, il y a un surcoût inhérent au prototype qui sera gommé dans les prochaines unités.
Quand on parle de votre business model justement sur ce type d'unité, comment sont générés les revenus justement liés à ce nouveau procédé?
Alors c'est un modèle complètement intégré. On collecte auprès des bateaux dans le port au Portugal les déchets d'hydrocarbures. On les stocke, on les traite, on produit du carburant et on revend le carburant au même bateau. Donc on est complètement intégré, c'est du recyclage de complet entre, et donc on a, c'est notre business model, c'est d'avoir des concessions dans les ports et d'opérer de cette façon-là. Et donc de revendre au bateau les déchets retraités, une fois retraités en carburant marin, de leur revendre du carburant.
Aujourd'hui, ça veut dire typiquement qu'on en a toujours des bateaux qui pensent qu'il vaut mieux envoyer ces résidus en mer. Aujourd'hui, ils ont une solution écologique pour régler ce sujet-là.
Exactement. Donc aujourd'hui, il y a une solution même économique puisque nous, on est capable aujourd'hui et on sera capable dans le futur de payer ces déchets, d'acheter ces déchets. Alors que dans les ports, les bateaux qui déchargent, qui dégazent, puisque c'est ces nappes de dégazage qu'on voit derrière les bateaux, aujourd'hui quand ils dégazent, c'est pas pour le plaisir de polluer les mers, c'est soit parce qu'il n'y a pas d'installation dans les ports pour recueillir leurs déchets, donc nous on en a une et on en aura d'autres à l'avenir, soit c'est parce que même s'il y a des installations pour recueillir les déchets, le coût que leur facture le port est trop élevé. Et nous c'est l'inverse, on sera prêt et on est prêt aujourd'hui à acheter ces déchets, même à une petite valeur. Et donc économiquement pour le bateau il a tout à y gagner puisque il va récupérer un petit peu de la valeur de ce déchet plutôt que d'être facturé pour le décharger.
Ça veut dire aussi pour vous peut-être en termes commercial d'aller faire de la publicité pour faire savoir que ça existe, que ça va pouvoir exister?
La publicité auprès des grandes compagnies maritimes, alors c'est les grandes compagnies font longtemps qu'elles ne dégazent plus en mer, ce phénomène il est uniquement généré par les petits bateaux, des toutes petites sociétés. Il y a quand même une grande prise de conscience dans le monde marin de l'impact et donc toutes les grandes sociétés ne dégazent plus mais elles déchargent dans les ports. Par contre elles sont très contentes de savoir que leurs déchets, d'abord il y a une transparence complète sur qu'est-ce qu'ils deviennent puisqu'elles sont quand même préoccupées par le devenir des déchets. Elles en sont en partie responsables de savoir qu'est-ce qu'ils deviennent après les avoir déchargés et puis surtout de pouvoir embarquer à bord du carburant dont une partie est issue du recyclage de leurs déchets, ça minimise aussi l'impact sur la planète et ça leur permet à ces compagnies de communiquer sur le côté vertueux de leur comportement.
Donc on a ce projet au Portugal qui aujourd'hui fonctionne.
Ouais.
Quels sont les projets à venir que vous allez avoir? Est-ce que vous ciblez des zones portuaires? Quelles sont les zones que vous ciblez aujourd'hui?
Alors en fait, on est approché de façon directe par certains ports ou certains collecteurs dans les ports. Ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir sélectionner les projets sur lesquels on veut travailler. Et les projets qu'on a en cours aujourd'hui de développement sont des projets qui sont en Europe du Nord, dans la zone Anvers, Rotterdam, Amsterdam, où on travaille avec un collecteur pour installer une unité dans cette zone qui est la plus grosse zone de collecte de déchets d'hydrocarbures en Europe, puisque c'est la plus grosse zone portuaire d'Europe. On a un déchet aussi, on a aussi un projet dans la, en Méditerranée, en France et en Méditerranée, avec une société industrielle. On a un projet en Méditerranée, cette fois-ci sur le côté sud de la Méditerranée, dans un endroit sur lequel on n'a pas encore communiqué, mais un grand débouché portuaire. Et le projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois en Côte d'Ivoire, à Abidjan, avec le support du gouvernement local et des autorités du port d'Abidjan. Et on est en train aujourd'hui de discuter avec eux d'une concession sur un terrain en face de la raffinerie, donc quelque chose de très concret. Voilà, donc sur ces quatre projets, il y en a trois qui sont relativement avancés, un qui l'est un peu moins. Mais ils sont tous. Voilà. Et notre stratégie, c'est pour l'instant de travailler sur des projets qui ne soient pas trop loin de la France, de manière à ne pas s'éparpiller en termes de ressources.
Sur la partie financement, comment vont être financés justement ces nouveaux projets pour vous?
Donc le financement, on va à chaque fois faire appel à des actionnaires minoritaires localement, à la fois parce qu'on a besoin d'appui locaux dans ces pays pour avoir les autorisations ou pour avoir la sécurisation sur les approvisionnements en déchets. Donc c'est toujours intéressant de s'associer avec un collecteur local qui est déjà opérationnel. Idéalement, ça serait pour nous de monter des sociétés projets dans chacun des pays, détenus à 51% par Ecoslob, c'est 49% par le minoritaire local, et de complémenter le financement par du financement bancaire. Donc on parle aujourd'hui de projets qui devraient coûter entre 10 et 12 millions d'euros, comparé aux 18 millions qu'a coûté la première unité. Donc on est sur des échelles beaucoup plus faibles en termes d'investissement avec le retour d'expérience. On espère avoir du financement bancaire pour les deux tiers ou la moitié, et le reste sera financé à parité avec le minoritaire.
Le mot de la fin concernant la rentabilité, est-ce qu'il y a un échéancier pour vous que vous êtes donné pour dire à quel moment effectivement vous seriez rentable?
Ce qu'on veut, c'est que l'an prochain l'unité de Sines en running rate, comme on dit, donc sur 12 mois courants, puisse dégager une profitabilité pour montrer que un an après le lancement, on est déjà rentable. Donc ensuite, les autres unités seront encore plus rapides à atteindre leur point d'équilibre. Mais l'objectif pour nous, c'est d'atteindre ce break-even l'année prochaine.
Bien, on suivra ça. Merci Vincent Favier d'avoir été avec nous.
Merci.